De retour à Delirium environnemental, aujourd'hui, donc 22 septembre, journée internationale en ville sans ma voiture. On a pensé que c'était approprié de recevoir M. Richard Bergeron, qui est chef du nouveau parti municipal, donc un parti politique au niveau municipal, qui s'appelle le Projet Montréal. En fait, je pense que c'est intéressant peut-être de se rappeler pour nos auditeurs qu'on avait déjà reçu M. Richard Bergeron concernant la publication « L'économie de l'automobile ». Tout ça, c'est disponible sur notre site Internet pour aller voir ce magnifique document tout à fait intéressant. Donc, M. Richard Bergeron est urbaniste de formation et responsable des analyses stratégiques à l'Agence métropolitaine de Montréal. Mais depuis le 7 juin, il a fondé un parti politique pour la ville de Montréal. Donc, c'était le 7 juin dernier, si je ne m'abuse. D'abord, M. Bergeron, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous allez bien?
C'est un plaisir. Oui, je vais très bien. Bonjour à tout le monde.
Bonjour.
On voulait commencer par vous poser une question bien simple, à savoir quels sont les objectifs de Projet Montréal? Qu'est-ce que c'est Projet Montréal?
Bon, Projet Montréal, ça résulte d'un constat assez désagréable, c'est-à-dire que depuis 10 ans, 15 ans, moi personnellement et bien d'autres, on a travaillé à concevoir toutes sortes de politiques, de projets, on a fait des analyses techniques très poussées, bon, à l'intérieur des structures publiques. Et à chaque fois, on s'est heurté à l'indécision du politique. On a découvert en bout de piste l'absence de volonté. De foncer tête baissée dans le sens du développement urbain durable. Alors, tous ces projets-là sont prêts, toutes ces réflexions ont été faites, toutes les études à conduire ont été conduites, et il ne s'est rien fait. Alors, à un moment donné, on se dit, bon, on approche de la cinquantaine, est-ce qu'on va continuer à faire ce jeu-là durant encore 10, 15 ans, finir sa vie à tourner en rond, quoi? Alors que la concurrence, à mes yeux, la concurrence, c'est l'automobile, progresse à vitesse grand V au Québec. Les Québécois n'ont jamais été plus heureux de s'acheter des autos de plus en plus puissants, des gros 4x4, c'est rendu des Hummer puis des Porsche Cayenne. Alors, on fait un travail qui ne conduit à rien, puis en parallèle, le modèle de société qui ne nous plaît pas, le modèle ennemi, lui, progresse à vitesse grand V. Alors, à un moment donné, tu te dis, je ne continuerai pas encore 10, 15, 20 ans à faire ça. On va changer de moyen, puisque c'est le politique qui bloque. Devenons le politique.
Donc ça, c'est pour votre implication pour la création d'un parti politique comme tel, en ayant travaillé justement sur quelles sont ses alternatives pour un développement urbain durable. On aura l'occasion d'en reparler. Maintenant, votre programme politique, donc vos objectifs, quels sont-ils? Quels sont les objectifs de Projet Montréal?
Bon, les objectifs de Projet Montréal comme parti politique, c'est prendre le pouvoir en novembre 2005, l'année prochaine. Bon, maintenant, au niveau du contenu, c'est de lancer Montréal dans l'ère du développement urbain durable.
Qu'est-ce que ce serait?
Ça veut dire, première des choses, le pire ennemi de la qualité de vie urbaine, c'est le bruit, la pollution, le danger que représente la circulation excessive, qui, d'ailleurs, au cours des 5 dernières années, a connu une croissance de 5% par année. Alors, c'est vraiment, là, c'est la fête pour l'industrie auto, présentement au Québec. Alors, nous, la première des choses pour rétablir un minimum de qualité de vie à Montréal, c'est de réduire la place de l'auto dans la ville. Alors, on se donne un objectif de réduction de 2,5% par année. Bien sûr, on ne fera pas ça en contraignant les gens à marcher à pied. On va lancer un programme d'investissement massif dans les transports collectifs, qui est le programme dont je vous ai parlé l'année passée, et dont je parlais il y a déjà 7, 8 ans, 10 ans, mais qui n'a jamais été lancé. Alors, ça veut dire une amélioration significative du service bus, ça veut dire des améliorations significatives aussi du service métro, notamment par l'implantation d'ascenseurs donnant directement accès au quai à partir du niveau rue. Pour aller directement au quai, il faut ne plus passer par les tourniquets. De fait, nous allons les démanteler au centre-ville. Le métro, le transport collectif va être gratuit au centre-ville. Et on va contrôler à la sortie, et on appelle ça sur l'honneur, c'est-à-dire qu'on ne contrôlera pas tout le monde, juste 1% à peu près. Et la pièce maîtresse, on va amener une nouvelle technologie de transport collectif à Montréal, qui est celle du nouveau tramway. Ce tramway réinventé, qui change complètement la face de l'Europe urbaine depuis une quinzaine d'années. Tous les pays en Europe y sont passés. Ça a commencé en France, ça a été conçu en France, mais ensuite c'est passé à l'Espagne, au Portugal, l'Italie, toutes les villes de 250 000 habitants et plus ont tous des projets de nouveaux tramways. L'Allemagne, qui n'avait pas abandonné le tramway, le retransforme en ce format nouveau tramway, et ainsi de suite avec la Grande-Bretagne, les pays scandinaves. Bon, dans les pays avancés, il n'y a que l'Amérique jusqu'ici qui ne connaissent pas ça, alors ça va arriver à Montréal.
Moi, je m'en doute bien, mais pouvez-vous me parler... Je m'en doute bien pour avoir utilisé le tramway ailleurs en Europe, mais pouvez-vous me parler des avantages du tramway? Pourquoi le tramway comme nouvelle technologie de transport urbain?
Voilà, il faut d'abord préciser que ce n'est pas qu'une technologie. C'est un prétexte, c'est un moyen qu'on utilise pour se réapproprier l'espace public. Depuis qu'on a démantelé l'ancien réseau de tramway, on a concédé l'espace public à la voiture. C'est devenu les chaussées, les voiries, et la rue, maintenant, dans la tête des gens, c'est devenu là où les automobilistes ont tous les droits et où les citoyens n'en ont plus. Alors, le tramway, c'est d'abord un mode d'insertion dans l'espace qui exclut l'automobile. Alors, le tramway est toujours en site propre, ce qui, automatiquement, rend impossible les accidents. Parce que à l'époque du tramway à Montréal, quand il y en avait, souvent on se faisait tuer quand on s'apprêtait à y embarquer ou qu'on en descendait, puisque le tramway est en plein milieu de la rue et les automobilistes ne respectant pas tous la réglementation, régulièrement il y avait des morts. Alors, ne serait-ce que pour la sécurité, on a besoin d'isoler le tramway de l'espace automobile. Mais ça devient l'occasion de se réapproprier l'espace.
Donc, se réapproprier l'espace public pour tous les citoyens et citoyennes, ceux qui n'ont pas de voiture tout particulièrement. On vient de parler du quoi, si vous permettez. Au retour, on va parler du comment. Vous êtes de retour à Delirium environnemental et nous aussi par la même occasion. On a toujours le plaisir de s'entretenir avec M. Richard Bergeron, chef du nouveau parti municipal Projet Montréal, donc axé particulièrement sur le transport durable. On vient de parler du quoi, donc des grands objectifs de se réapproprier l'espace public en milieu urbain pour tous les citoyens et citoyennes, sans préférence et surtout, même à la disgrâce peut-être, des automobilistes. Donc vraiment priorité à ceux qui se transportent autrement. On a donc parlé du quoi, quels étaient vos objectifs. Maintenant, ça me semble vraiment passionnant et moi j'en veux un tramway à Montréal, mais comment? Ça va coûter une fortune de mettre ça en place, non?
Oui, ça coûte assez cher, de 40 à 60 millions de dollars au kilomètre. Bon, sur cette question des coûts, j'ai publié ce matin dans Le Devoir une opinion sur les coûts du métro de Laval, où je soutiens que le métro de Laval coûte 800 millions parce qu'il vaut 800 millions. Mm-hmm. Aussi simple que ça. Ce genre d'équipement a un prix, puis il faut accepter de le payer. Mm-hmm. Alors, quand la décision est prise, c'est que de toute manière, on le conduit à terme, c'est-à-dire qu'on complète la construction, puis on le mettra en service en 2007, que l'on cesse de manipuler la population. Un métro, ça vaut 800 millions, ça vaut 100 à 150 millions le kilomètre. Un tramway, ça vaut de 40 à 60 millions de kilomètres, on peut s'entendre sur 50 millions en moyenne. Parce que le tramway, ce n'est pas qu'un instrument de transport. On refaçonne entièrement l'espace public. Par ailleurs, on ne peut pas laisser d'infrastructures souterraines sous le tramway. Alors, l'adduction d'eau, les égouts, téléphone, gaz et tout, tout doit être enlevé et remis en parallèle du tramway. Il faut qu'il n'y ait rien sous le tramway.
Pourquoi? C'est le poids aussi?
Non, parce que la journée où un tuyau pète, il ne faut pas être obligé d'arrêter le tramway sur un 4 jours, parce qu'il va devenir important dans la vie, dans le fonctionnement de l'agglomération, surtout qu'on enlève l'auto. Alors, il n'y a plus d'alternative auto en parallèle, là.
Mais là, j'entends des gens crier, je les entends pas, mais je les imagine crier et s'arracher les cheveux. Plus d'auto, comment on fait pour dissuader les gens d'utiliser leur
voiture? À Montréal, les voiries sont partout, sauf à quelques rares exceptions dans le Vieux-Montréal, les voiries sont partout assez larges pour qu'on puisse implanter le tramway, tout en conservant une accessibilité auto, mais réduite. Il pourrait malgré tout arriver que l'on décide d'enlever l'auto complètement. Alors, Projet Montréal annonce dans son programme que sur la rue Saint-Paul, sur la rue Sainte-Catherine, puis sur la rue Mont-Royal, pour une première phase, on enlève l'auto complètement et définitivement. Mais de manière générale, ceci, d'enlever l'auto n'est pas requis. Il reste toujours de la place, tellement nos voiries sont larges. Alors, le tramway coûte 40 à 60 millions de kilomètres. Dans la phase 1, le premier mandat de Projet Montréal 2005-2009, nous, on s'engage formellement à mettre en place 25 km, c'est-à-dire grosso modo un milliard et demi d'investissement. À quoi ça se compare, ce un milliard et demi d'investissement? Ça se compare à l'argent que l'on mettrait autrement dans le mode de transport concurrent, qui est l'automobile. Or, qu'est-ce qu'on sait? relativement à l'automobile. Depuis qu'on est entré dans l'ère de Kyoto, quand j'étais venu la dernière fois, je vous avais fait part d'un chiffre qui était 16,3 milliards de dollars. Ça, c'était l'argent supplémentaire qu'on avait mis dans l'auto depuis le 1er janvier 1998. Mm-hmm. C'est-à-dire, oui, au Québec, c'est-à-dire depuis qu'on est entré dans l'ère Kyoto. Drôle de manière d'entrer dans l'ère Kyoto.
Tout particulièrement dans la réfection des routes, j'imagine.
Non, uniquement dans les véhicules. Uniquement les ventes au détail, c'est une seule série statistique. Ah. Stadcan, c'est blindé cette affaire-là.
Donc, nous, Québécois, Québécoises, en achetant des voitures, c'est ce qu'on a injecté.
C'est ce qu'on a mis dans l'auto. Mais là, je vous disais, j'avais dit 16,3, mais depuis lors, j'ai fait les calculs pour 2003, pour l'année 2003 qui est maintenant complétée. C'est maintenant 20,4. Hmm. Alors, au cours des 6 dernières années, on aurait mis, c'est-à-dire si on avait plafonné notre dépense automobile strictement au niveau des ventes au détail, là. C'est les carburants, c'est les véhicules, c'est les pièces. Et c'est le temps garage. Uniquement ça. C'est la seule rubrique que je prends en compte. Si on l'avait plafonné à ce qu'elle était au 31 décembre 1997, mm-hmm. ce qui aurait été raisonnable, puisqu'on rentrait dans l'ère Kyoto, on va commencer par plafonner la dépense. Au cours des 6 dernières années, on aurait à ce moment dépensé 145 milliards dans les ventes au détail automobile. On ne l'a pas plafonné du tout. On l'a fait monter à 165,4 milliards. De là, le 20,4 milliards de plus. Alors, ce milliard dont je vous parle pour le tramway, il s'oppose à quoi? Il s'oppose à ce 20 milliards qu'on vient tout juste de mettre. On l'a trouvé très facilement, ce 20 milliards-là.
Oui, mais là, c'est pas la même chose. Ça, c'est l'argent des Québécois, Québécoises qui décident de s'acheter une voiture, donc un geste personnel ou un budget d'État ou un budget d'État municipal, mettons, pour ces infrastructures. C'est deux choses complètement différentes.
Non, c'est la même chose. C'est la richesse collective que nous partageons collectivement, les 7,5 millions de Québécois, et que nous choisissons de canaliser dans un secteur ou dans un autre. C'est toujours le contribuable, c'est toujours le duo québécois qui paie, là, il prend toujours dans sa poche. Alors, collectivement, on a décidé depuis longtemps que chaque fois qu'on aurait de l'argent neuf dans nos poches, on le dirigerait prioritairement vers l'automobile. Alors, nous, on dit, on va reprendre cet élément de réflexion, puis on va se dire, pourquoi ne pas en canaliser une proportion plus grande dans le transport collectif et donc moindre dans l'auto. Nous, on croit que les Québécois sont assez matures pour engager avec eux ce genre de débat, et tout particulièrement les Montréalais. Et on croit que quand les gens sauront de quoi l'on parle, parce que là, c'est difficile à la radio d'illustrer. Mm-hmm. Et d'ailleurs, il se fait très, très peu de travail de la part des médias pour montrer ce que ça prend, ou même des industriels, parce qu'il faut savoir que Bombardier vend la moitié des tramways dans le monde. Or, ils n'ont pas fait un très gros effort pour faire comprendre aux Québécois qu'est-ce qu'ils ratent. On ne sait même pas ce qu'on rate.
Donc, on y reviendra au retour. Mais j'en retiens que dans l'état actuel des choses, c'est sûr que les banlieusards vont continuer de venir en voiture vu l'état des systèmes de transport en commun pour le moment.
Donc, ils sont très défaillants présentement, oui.
Très défaillants, c'est pas très tentant. Donc, mais on y revient parce qu'on le sait bien, vous avez plusieurs autres pistes pour améliorer tout ça à Montréal. C'est quand même un projet d'envergure de vouloir diriger, si vous me permettez, ou plutôt administrer la ville de Montréal, sachant que 50% des Québécois y sont dans la grande région de Montréal. Donc, c'est quand même des grands projets. La politique, vouloir faire de la politique, vous en avez parlé un peu plus tôt. Moi, ce qui m'intriguait dans cette histoire-là, c'est pourquoi fonder un nouveau parti politique plutôt que d'en intégrer un déjà existant? Avec ces belles idées que vous
allez faire la promotion. Bon, premièrement, ces belles idées, nous, je les offre et nous, ceux qui travaillons, dans le même genre de, qui font le même genre de travail que moi, nous les proposons au gouvernement depuis maintenant 10 ans, 15 ans. Mm-hmm. Alors, ils ont été proposés à la ville, à toutes les administrations qui ont pu se succéder à la ville, ils ont été proposés au gouvernement du Québec, à toutes les administrations qui ont pu se passer. Et là, il faut savoir qu'à l'intérieur d'un mandat gouvernemental, des fois, il y a 4 ministres à un même poste, c'est-à-dire en succession une année chacun. Mm-hmm. Alors ce travail de proposer, d'offrir, de vendre sa salade, de documenter, de faire des prouesses pour rendre le tout alléchant, je l'ai fait à l'envi. Ils ont toujours répondu non, non, non. Ils répondaient oui au niveau des principes, c'est-à-dire ils reprenaient le discours. faut voir là, le développement durable, les transports durables, la priorité au transport collectif, c'est dans tous les discours politiques de qui que ce soit. Mais la fonction est purement manipulatoire. C'est d'endormir la population. C'est, j'appelle ça aussi l'écran de fumée rose. Alors là, on se trouve, moi et les autres qui travaillent sur la promotion du développement durable, à n'être que des producteurs de discours vides pour les politiques. Alors, à un moment donné, tu dis... Et au municipal, il y a deux partis, vous savez. C'est Bourque avec Vision Montréal, puis c'est Tremblay avec Lucien. Bon, Bourque, je veux pas être trop méchant, là, mais c'est pas très... Disons que c'est pas très intéressant. Quant à Lucien, c'est une coalition réalisée à la va-vite il y a maintenant 3 ans. Coalition assez bizarroïde, là, avec la gauche, un peu de vert, les grands barons de la politique banlieusarde. Et Gérald Tremblay qui est arrivé là-dedans comme une quille comme une boule d'un jeu de quilles, mais qui soit, il faut quand même lui reconnaître ce qui lui revient là, il apprend son métier. Mais en matière de compréhension du fonctionnement d'une ville, du compréhension du fonctionnement d'un marché du logement par exemple, c'est des néophytes, ils n'en savent absolument rien. Alors aller offrir ses services à eux, ça a été fait. Ça a été fait longtemps. J'ai beaucoup souhaité qu'ils disent oui. Ils ne l'ont jamais dit. Alors maintenant, les amateurs, enlevez-vous. Les pros arrivent.
Mais c'est quoi justement l'ouverture? Maintenant que vous avez fondé ce parti politique-là, maintenant que vous avez l'outil politique, est-ce que l'écoute au sein des partis politiques municipaux montréalais est plus grande?
Ah, vous parlez des partis politiques montréalais, donc c'est forcément Vision Montréal et l'UCEM? Mm-hmm. Ils s'inquiètent pas de nous, là. Jusqu'ici, ils ont pas peur. Ils semblent pas avoir peur. D'ailleurs, il vaut mieux qu'ils continuent à dormir encore un certain temps. Qu'ils ne se réveillent pas trop tôt, qu'ils nous laissent monter en puissance. Nous, on fait notre travail. On sait que la côte est intimidante. Devenir la nouvelle administration municipale dans 15 mois, dans 13 mois maintenant, à peine, on sait que c'est un défi colossal. Ils ne s'inquiètent pas. Sans doute qu'ils nous regardent aller, mais de loin... souhaitons que quand ils vont se réveiller, il va être trop tard. Alors nous, on fait notre job, on a des choses à proposer à la population, on les propose, on va dans les arrondissements, on va dans les quartiers, on parle avec le monde, on se présente dans les événements, on explique, on a un superbe site internet, projetmontréal.org, que les citoyens jugent par eux-mêmes, et vous allez voir que ce qu'on propose, c'est vraiment enthousiasmant. C'est pas vrai que Montréal, c'est juste des nids de poules, des trottoirs défoncés, des groupes marginaux auxquels il faut trouver sur lesquels il faut poser des band-aids. Mmh. Chacun son band-aid. Et autres petites choses minables qui est devenue la politique municipale à Montréal. Mmh. Ça peut être beaucoup plus intéressant que ça.
Ah, c'est sûr, il y a un potentiel exceptionnel à Montréal. C'est quand même une ville où il fait très, très bon vivre. Donc, imaginez si en plus on se donnait le trouble d'en faire une vraie ville durable.
On peut devenir l'une des villes modèles du monde.
Justement, par rapport à ce que vous proposez, je sais que vous faites des tournées un peu partout sur l'île de Montréal pour proposer votre programme. C'est quoi l'ouverture de la population? Comment que vous êtes accueilli?
Pour être accueilli, on est bien accueilli. Ce qui est amusant, c'est... les audiences sont pas très grandes. Là. Des fois, on n'a que 10 personnes. Il nous est arrivé d'en avoir 60. Mais on croit que les soirées Projet Montréal vont devenir un événement couru en ville. Parce que quand les gens viennent, rentrent dans la soirée, ils sont tellement habitués d'entendre parler combien Montréal est petite, combien Montréal est moche, combien Montréal est pauvre. Et que quand ils rentrent un peu débinés, un peu la tête entre les jambes en se disant « qu'est-ce qu'ils vont nous raconter celui-là? » ou « qu'est-ce qu'ils vont nous raconter ceux-là? » Et quand ils sortent, ils ont les yeux pétillants, puis ils disent « waouh, c'est possible! » Alors nous, on les a convaincus durant la soirée que c'était possible, que ça pouvait être autrement. Et on constate que de soirée Projet Montréal en soirée Projet Montréal, l'audience augmente. J'espère que vers la fin, on aura besoin du Stade olympique à chaque semaine. Mais disons que c'est peut-être un peu exagéré.
Le temps file vraiment trop vite, mais vraiment, je pense que c'est important pour les gens de Montréal, comme vous le disiez très bien, de s'imaginer ce qui est possible de faire avec Projet Montréal. Pour ce faire, ils peuvent aller directement sur votre site Internet, M. Richard Bergeon, donc projetmontréal.org, ou directement sur notre site Internet, et vous aurez un lien pour le Projet Montréal, mais vous aurez également l'économie de l'automobile au Québec, qui était un ouvrage où est-ce que, justement, il y avait des photos de ce tramway. Ça me faisait penser au tramway de Montpellier, c'est peut-être le même,
c'est celui-là. Oui. C'est un des plus beaux.
c'est magnifique, vraiment, et on en veut un à Montréal, je peux vous le dire. Donc, M. Richard Bergeron, merci beaucoup. Merci pour cette belle initiative également, mais aussi pour être venu nous voir et nous en parler. La prochaine rencontre se tiendra cette semaine?
Ce soir même, dans une heure et demie, il faut que je m'y rende, c'est dans le SIC ce soir. La semaine prochaine, c'est la petite Gaulle, la Pointe-Saint-Charles, pour que les gens aient le temps de...
Donc, les gens de la petite Gaulle, peut-être, la semaine prochaine, vous
mardi pourrez... prochain, c'est à 7h du soir, à la petite Gaulle, la Pointe-Saint-Charles. Venez en grand nombre, c'est tout juste à côté du métro Charlevoix. On tient toujours nos rencontres proches d'un métro, là.
C'est inscrit sur votre site?
Oui, c'est inscrit sur le site. On se tient à jour en allant voir sur le site.
Donc, bien, merci beaucoup, M. Richard Bergeron, puis au plaisir d'en rediscuter avec
c'est
vous.
C'est vraiment un plaisir pour moi.
Merci.
Au quotidien, pas en général, international. Comment réconcilier cet état? On ne peut pas.
Camarades démocrates,
je vous ai compris.
Nous sommes dispersés. Les réformateurs se sont cachés.
Alors demain, quoi? Tu me signales international. Comment voyager vers tes bras?
Réponse.
Je ne peux pas.
Camarades démocrates,
je vous ai compris.
Nous sommes dispersés. Les réformateurs se sont cachés derrière des forêts.
Cosmopolite, moi, je me régale de l'international. Comment vous dire qu'ici c'est étroit?
Réponse.
Ici c'est étroit.
Camarades démocrates,
je vous ai compris.
Nous sommes dispersés. Les réformateurs se sont cachés derrière des
arbres. Gatin, bien, bien.
Soyons des amis.
Soigne con Sali,
et je vous fais part.
Soigne con Keda, soigne con Keda,
et je vous fais part.
Soigne con Sali,
soigne con Sali,
et je vous fais part.
Soigne con Keda,
Gudita, Gata, Gem, Dem. Alors demain, quoi? Je me signale international. Comment voyager vers tes bras? Je ne peux pas.
Camarades démocrates,
je vous ai compris.
Nous sommes dispersés.
Et bienvenue de vos autres.
Retour à Delirium environnemental. On vient de s'entretenir avec M. Richard Bergeron. Je vous invite vraiment à aller voir à partir de notre site au www.radiodelirium.net. On termine pour nos classiques coup de cœur, coup de masse et au calendrier cette semaine. Messieurs, faites-vous plaisir.
Eh bien, quand on parlait de mettre une image sur quelque chose, je donne un coup de cœur à l'émission Découverte cette semaine qui nous a montré c'est quoi un toit vert. Il y avait un beau reportage complet là-dessus. C'est génial. Alors, vous pouvez avoir en reprise cette semaine, je pense, Verdier. Allez voir ça, c'est vraiment génial. Comme
et Charles est toujours de
il est toujours incroyable.
C'est passionnant.
Un petit dégrisonnant, mais c'est tellement le fun. Hey, moi, j'envoie un coup de masse solide au gouvernement québécois qui n'investira pas de nouvelles sommes dans le Fonds d'action québécois pour le développement durable. Vous savez qu'il y avait plus de 45 millions de dollars qui étaient investis dans ce fonds-là pour faire la promotion du développement durable au Québec. Eh bien, ils mettent pas plus d'argent parce qu'ils considèrent que c'est pas important.
Incroyable. Mais moi, j'en profite pour faire un coup de cœur, tu sais, le revers, un coup de cœur, allons-y, de bon cœur. Chirac et Lula pour avoir ramené les discussions autour de l'éradication de la pauvreté et de la faim dans le monde avec leur projet donc de financement de l'aide internationale par des taxes de toutes sortes, dont 10$ la tonne sur les gaz carboniques, sur les gaz les CO2, gaz carbonique, mais surtout sur les échanges commerciaux internationaux. Gros coup de cœur.
Coup de masse à la NASA de ma part, des milliards de dollars investis dans des projets de recherche, et là on a le vaisseau Genesis qui vient de planter à 200 000 à l'heure sur la surface de la Terre en plein milieu du désert du Utah. Une bonne partie des données qui avaient été collectées à grands frais ont été perdues.
Justement, est-ce qu'on connaît les frais de cette histoire-là? Ce serait intéressant d'aller chercher ça.
Peut-être au calendrier également cette semaine, ben, Change d'air le mercredi 22 septembre à 20h. Donc ce soir, c'est la première de Change d'air. C'est une pièce de théâtre qui est faite par la troupe L'Univers qui concerne, justement, qui parle de façon originale d'une problématique qui nous concerne tous, les changements climatiques. Ça se passe au Café étudiant. Ah oui, c'est bien bizarre. Au Café étudiant du Collège de Rosemont, 16e avenue, coin Beaubien. Et vous pouvez voir sur info@l'univers.com pour avoir des informations.
Ben, je pense qu'on passera à côté de quelque chose en donnant pas un gros coup de cœur à tous ceux qui aujourd'hui n'auront pas pris leur voiture. Donc, bravo tout le monde et les
bravo.
Autres.
En tout cas, il y a une autre catégorie, c'est coup de masse.
On ne l'a pas dit directement. Mais écoutez, je veux faire un coup de masse. Je me reprends pour cette nouvelle complètement consternante de Bennett Environnemental Conseil de la conservation du Nouveau-Brunswick qui s'est fait poursuivre par Bennett Environnemental parce qu'ils ont dit certains propos qui sont en fait très véridiques.
Saviez-vous comment on pourrait leur répondre? Peut-être que si la population entière du Québec allait signer les pétitions sur Retour à l'expéditeur que vous trouverez sur notre site internet à nous, ben ils ne pourront pas se mettre à poursuivre 7 millions de personnes. Certainement pas, c'est ma suggestion, mais oui, bravo Nicolas Maville. Tu vas peut-être être poursuivi pour diffamation, par exemple. Fais attention.
Le feuilleton des PBDE, vous rappelez d'eux, les...
problèmes bien durs à enrayer.
En fait, des retardants de flammes. C'est même pas ignifuge. Et donc, oui, ils ont... on a retrouvé leurs traces dans le lait maternel il y a un an environ. Plus récemment, dans les poissons de culture. Encore plus récemment, dans les saumons de la baie de San Francisco. Et cette semaine, dans de la bouffe d'épicerie, il y en a partout. Et comment ça se fait qu'il y a des retardants de flammes dans toutes ces choses-là? Dites-le-moi donc, s'il vous plaît.
J'imagine que c'est un coup de masse, ça.
Ben oui, je pense.
Hey, je vais faire un beau petit coup de cœur à la revue Aube qui publie son premier agenda qui est disponible dans les Rachel Berry un peu partout à Montréal. Un agenda qui donne plein de petits conseils pratiques pour tout le monde pour réduire son empreinte écologique, pour s'assurer qu'on n'a pas trop de poids sur notre environnement. Une très belle initiative. Donc, la revue Aube et son premier agenda, septembre 2004-2005.
Moi, j'aimerais offrir mes sympathies au peuple haïtien. À ceux du Québec puis à ceux d'Haïti parce qu'ils ont été touchés par Jeanne, puis je pense que ça a été un drame assez monumental, puis surtout, ils avaient déjà eu la vie très difficile, fait que mes sympathies à toute la communauté haïtienne qui doit vivre les changements climatiques en direct cette semaine.
Eh bien, ils les collectionnent encore une fois, le Parti libéral, qui est au pouvoir malheureusement. Un autre coup de masse, vous avez entendu parler des PPP, les partenariats publics-privés dans le domaine de l'eau. Eh bien, on vient donner des mandats à des firmes pour faire des études sur la faisabilité de tels partenariats, mais laissez-vous pas berner. Il y a entre autres la firme Secor, qui est également une firme auprès des personnes qui vont exécuter les partenariats privés, donc du côté privé, qui sont chargés de faire ces études-là. Donc, c'est sûr que ce que vous allez voir, ce ne sont que des bons côtés. On parle de transparence depuis le début du mandat, eh bien, c'est de la transparence opaque pas mal.
Ce soir, tout le monde, vous avez la responsabilité de vous déplacer au parc Jeanne-Mance à 6h en cette journée internationale en ville sans ma voiture. Amenez votre vélo, vos patins, vos pieds. On s'en va marcher sur Mont-Royal, on s'en va rouler sur Mont-Royal pour réclamer la rue.
Puis ensuite, peut-être si c'est terminé, rendu à cette heure-là, à 19h30, il y a la projection du film Rivière d'argent. On parlait de privatisation de l'eau. Ben, Rivière d'argent, ça concerne ce qui se fait ici au Québec. C'est gratuit et c'est à la Maison de la culture Frontenac. Je vous invite à aller voir ça.
Venez-vous-en. Moi, j'aimerais faire un dernier petit coup de cœur. Coup de masse. La pêche sportive serait responsable de quelques-unes des 23% des prises d'espèces en danger.
Ouf!
C'est poche!
Coup de masse. Mais il y a une grosse amélioration selon la FAO, je pense. Oui, j'ai un petit article ici, mais je te le retrouve pour la semaine prochaine, promis, parce que malheureusement, c'est ce qui fait le tour des coups de cœur, coups de masse et du calendrier pour cette semaine. Ceux qui veulent en savoir plus sur notre site internet au www.radiodelirium.net, on retrouve un calendrier et les nouvelles de la semaine et plein d'autres choses. Et puis voilà ce qui complète Delirium Environnemental à toute l'équipe, donc Nicolas Mainville, Hugo Lachapelle, Nicolas Milot, ainsi que Patrick Bonin qui était là en esprit avec nous, qui nous a bien aidé pour monter l'émission. Étienne Côté-Paluc à la technique et c'est aussi le magicien qui fait notre site internet par grâce à qui vous pouvez nous voir au www.radiodelirium.net. Monsieur Richard Bergeron qui était ici avec son projet Montréal passionnant, tenez-vous informés de ces choses-là. La semaine prochaine, on a une entrevue exclusive avec Monsieur Hamad. Monsieur Hamad, responsable ministre des Ressources naturelles. Patrick Bonin s'est entretenu avec lui cette semaine et donc on l'entendra la semaine prochaine à Delirium Environnemental. Moi, c'était Sofiane Legendre. Ça m'a fait bien plaisir, comme d'habitude.
On s'excuse de ne pas avoir eu André Bellil. On va essayer de se rattraper.
Ah, oh, on est...